On va pouvoir reprendre. Vous me rajeunissez tous, puisque tout ça, j'avais étudié ça dans les années 1980, puisque c'est mes sujets de thèse de troisième cycle de thèse d'État. Puisqu'on connaît l'âge d'un universitaire au nombre de réformes universitaires par lesquelles il est passé. Donc, je suis de la dernière génération des gens qui ont fait les thèses de troisième cycle, les thèses d'État. Alors, je vous signale, pour votre curiosité, c'est pas pour que vous fassiez nécessairement l'acquisition, que mon livre sur la campagne d'Égypte, l'expédition d'Égypte, est toujours disponible en format poche aux éditions du Seuil, collection Point. Et qu'il existe une version numérique Kindle pour ceux qui sont plus modernes. Voilà. Donc, tout ce que je voudrais parler ici, c'est des choses que j'ai évoquées il y a déjà une trentaine d'années. Mais enfin. Alors, la campagne d'Égypte, 1798-1801, n'est pas le point de départ de la modernité en Égypte ou dans le monde arabe, au sens où les évolutions ultérieures en découleraient nécessairement, mais ces conséquences ont été essentielles. L'expédition met fin à la pluriséculaire protection ottomane qui avait éloigné la menace franque du Proche-Orient. Et d'autre part, les Ottomans n'ont pas eu le moyen de chasser les Français d'Égypte. À chaque fois qu'ils les ont affrontés en bataille rangée, ils se sont fait écraser. Mais pour tenir, ils ont été obligés de s'allier avec la Russie, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Ce qu'on appelle donc les guerres de la seconde coalition. 1798-1802, puisque vous connaissez vos coalitions par cœur. Et les guerres de la seconde coalition sont essentielles pour l'histoire du monde, pas la première nécessairement. La familiarisation des mœurs et pratiques européennes va devenir beaucoup plus importante, tout simplement parce que les Ottomans vont collaborer militairement avec les adversaires de la Révolution française. Il y aura un micro-épisode absolument passionnant en 1799, à Naples, où un soulèvement mené par un cardinal catholique contre les Français qui ont occupé Naples recevra le soutien d'une flotte anglaise protestante qui déposera un corps expéditionnaire russe et ottoman. Et on a donc toutes les religions chrétiennes plus l'islam pour combattre l'athéisme de la Révolution française. La première alliance politique, ce qui compte en cette fin du XVIIIe siècle, c'est que paradoxalement, c'est au nom de la défense des religions révélées que les Ottomans et l'islam entrent en contact direct avec les Européens qui sont là maintenant, militairement présents par milliers dans l'espace ottoman. Pour Londres, l'enjeu de la guerre de la seconde coalition, c'est tout simplement la maîtrise de l'Ancien Monde, comme vous montre cette formidable caricature britannique de 1799, où l'Anglais combat le Français, les deux étant assis sur la totalité de l'Ancien Monde. C'est ça, l'enjeu. L'enjeu, c'est la route des Indes. Et la caricature l'exprime admirablement. Là, c'est John Bull, et là, c'est le révolutionnaire français qui, selon les traditions des caricatures britanniques, est toujours représenté comme maigre et affamé. Si vous regardez les caricatures britanniques des Jacobins et autres, c'était le style de l'époque. Donc, par exemple, on a les phénomènes, le micro-événement suivant, que le sultanat indien de Mysore, dans le Deccan, qui lutte contre l'expansion anglaise en Inde, avec le célèbre Tipu Sahib, dans les années 1780, avait demandé le secours du padishah ottoman. Et à cette occasion, les musulmans indiens avaient pour la première fois reconnu au sultan de Constantinople la qualité de calife. L'intéressé avait fait une réponse polie, parce qu'il n'avait aucun moyen d'intervenir aussi loin et qu'il ne voulait pas se brouiller avec les Anglais. Et Tipu Saïb était ensuite entré en contact avec les révolutionnaires français, qui, eux, au contraire, avaient proclamé leur volonté de venir militairement libérer l'Inde de la domination britannique. Cela avait inquiété les Britanniques, qui avaient demandé au sultan Selim III d'intervenir auprès des musulmans indiens pour les prévenir du danger de l'athéisme français sur l'islam. Et en début de 1799, Selim III avait donc obtempéré en demandant à ses frères musulmans de... en prévenant ses frères musulmans du danger mortel que représentent pour l'islam les matérialistes. Prudemment, Selim III n'avait pas invoqué sa qualité de calife que lui prêtaient tout à fait généreusement les Britanniques. De toute façon, la lettre était arrivée après la prise du Mysore et la mort de Tipu Saïb, puisque les Anglais d'Inde venaient d'éliminer les derniers Jacobins indiens, puisque dans les langages britanniques, la conquête de l'Inde, qui est faite par Arthur Wellesley, le frère de Wellington, est une lutte pour chasser les Jacobins de l'Inde, une guerre préventive, comme diraient d'autres. On soupçonne aussi d'avoir des Jacobins en Afghanistan, mais ils sont encore un peu loin. Mais l'épisode, qui est minuscule, est tout à fait symptomatique. Pour la première fois, vous avez un appel de solidarité entre musulmans, mais on ne sait pas contre qui. Les musulmans de l'Inde demandent le secours contre les Français, contre les Anglais, et les musulmans de la Méditerranée demandent des secours contre les Français. C'est-à-dire que l'appel à l'unité musulmane se fait contre des adversaires qui, eux, sont dans des alliances contradictoires. Et c'est là où on voit ce qu'on appellera plus tard, on aura l'occasion de revenir les années suivantes, le panislamisme, cette contradiction que le panislamisme et ses doctrines d'unité musulmane se trouvent avalé, englobé dans les luttes géopolitiques entre puissances occidentales, ce qu'on retrouvera dans d'autres périodes. Pour les Égyptiens, ces trois années avaient été terribles. La guerre avait été plus ou moins permanente contre les Mamelouks. Les insurrections rurales et urbaines ont été durement réprimées. Si on regarde les correspondances des officiers français de l'expédition d'Égypte, pour le delta ou pour la haute vallée du Nil, ils disent « Ah, c'est que ça nous rappelle la Vendée !» Alors, comme on sait que les Français en Vendée ont pratiqué des méthodes génocidaires, vous pouvez imaginer ce qu'était la violence de la conquête de territoires égyptiens par l'armée française. Le delta du Nil a été quadrillé par des colonnes mobiles sur le modèle de la Vendée, disent. Les généraux, de toute façon, la moitié des généraux français de la campagne d'Égypte avaient fait la Vendée. Donc, ils savaient comment contrôler une population. Sur le plan... Alors, les Français sont incorrigibles par ailleurs. Ils ont pris en main l'administration égyptienne qui était en lambeaux et ils ont reconstitué les comptes. C'était rien possible, vous mettez des Français avec une administration, ils vous refont toute la bureaucratie, ce qui fait que quand les Français ont été entrés en Égypte, les Égyptiens payaient de l'impôt de l'année prochaine. Et quand les Français sont partis, les délais étaient redevenus normaux. Les paysans égyptiens avaient quand même bien apprécié aussi la protection que les soldats français donnaient contre les Bédouins. Et donc, dans les régions du Delta en particulier, d'importantes populations musulmanes n'étaient finalement pas mécontentes que les Français aient refoulé les Bédouins dans le désert. Parce que quand les Français ont des colonnes mobiles, ils ne s'en servent pas seulement pour contrôler les paysans. Ils chassent les Bédouins Et ils ont créé le premier régiment de dromadaires, ce qu'on appellera ensuite des méharis. Et comme tout le monde sait que les dromadaires sont des vaisseaux du désert, on a fait monter des dromadaires par des marins. Parce qu'ils ont comme ça, ils n'avaient pas le mal de mer. Ça, c'est la logique de l'administration française. C'est authentique, hein? Et les pouvoirs locaux, un certain nombre de pouvoirs locaux, ont aussi pactisé avec les Français afin d'assurer leurs intérêts propres face au risque de restauration de l'autorité du pouvoir central ottoman. Et en fait, cette période de troubles qui a en fait commencé dans les années qui ont précédé l'expédition d'Égypte, parce qu'il y a des guerres entre les Mamelouks et les Ottomans, puis entre Mamelouks tout court, puis l'invasion française, puis la guerre qui reprend entre les Mamelouks et les Ottomans, d'autant plus que les Britanniques sont restés, puis les Britanniques s'en vont, et puis ils reviennent en 1807, mais ils sont battus en 1808, et ils repartent. Bref, en fait, le temps des troubles en Égypte va durer 20 ans. De 1791, en gros, à 1811, quand le vainqueur Mehmet Ali, on aura l'occasion de reparler de lui, aura éliminé les derniers Mamelouks, c'est le fameux massacre des Mamelouks dans la citadelle du Caire. Alors, ce long temps des troubles va avoir une série de conséquences sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, plus tard. C'est le démantèlement du pouvoir de l'ancienne classe dirigeante qui sort à peu près laminé de ces 20 ans de violence continue qu'a connu l'Égypte. En particulier, tout le système de la ferme fiscale a été quasiment détruit par ces 20 ans de guerre. Alors, je vous avais dit, et ça c'est essentiel, que les guerres de la Seconde Coalition sont essentielles pour la compréhension du monde contemporain, parce que ces guerres de la Seconde Coalition propulse l'équilibre européen sur les rives de l'Indus. Il n'y a plus d'équilibre européen passé 1802, c'est un équilibre mondial. Ce qui fait que toute personne, tout État, toute puissance qui accroît sa force territoriale dans l'ancien monde doit connaître l'opposition des autres, à moins que les autres reçoivent compensation. C'est les règles de l'équilibre. Mais maintenant, on est en équilibre mondial. Et maintenant, surtout, à la sortie des guerres de la Seconde Coalition, tout l'ancien monde pivote autour d'une route imaginaire, qui est la route des Indes. Parce que les Anglais ont vraiment eu très peur de voir les Français aller en Inde à partir de l'Égypte. Et à partir donc de ce moment-là, les Anglais s'opposeront par tous les moyens à que qui que ce soit se remette sur la route des Indes comme les Français l'ont fait en 1798. Et on me le montre encore cette caricature. Le sort de l'Empire ottoman est un des grands enjeux des guerres napoléoniennes, 3e, 4e, etc. Coalition, je vous en fais grâce. Un exemple tout à fait simple. Au lendemain d'Austerlitz, dans un coin les plus pourris de la Pologne, enfin, ça exagère, je vais me brouiller avec les Polonais, Napoléon reçoit les ambassadeurs ottomans et persans. Le sort de l'Empire ottoman est au centre des discussions de Tilsit entre Napoléon et Alexandre Ier. Bref, entre Russes et Français, on joue ce qu'on appellerait du poker menteur pour savoir lequel des deux aura un jour Constantinople. En tout cas, les Ottomans vont réussir à quelque chose d'assez admirable, c'est de se placer dans le camp vainqueur à chaque fois. Dans la Seconde Coalition, ils sont du côté des Anglais. Dans la Troisième et la Quatrième, ils sont du côté des Français. Et à la Cinquième, en 1812, ils se retirent de la guerre contre la Russie au début de 1812. Autrement dit, avec un peu de peau, ils ont été dans tous les camps gagnants des guerres napoléoniennes. Ce qui, quand même, leur a permis de survivre. Alors, on voit bien que si l'Empire ottoman a survécu, c'est parce que la classe dirigeante a compris la nécessité des réformes. Ces réformes que les Européens plaident depuis les années 1770 à Constantinople. Alors, les premières réformes avaient été la restauration des institutions originelles de l'Empire, mais on s'était aperçu que ce qu'on appelle les réformes archaïsantes ne donnait rien. Donc, il fallait adopter des réformes de modernisation. Et en particulier, l'Empire Selim III, l'Empereur Selim III a commencé à constituer des unités militaires modernes sur le modèle européen, avec une forme à l'européenne, ce qu'on appelle le Nizam Jadid, la nouvelle organisation. Mais l'emprunt reste superficiel du fait que l'on manque de personnel compétent, en particulier d'un corps d'officiers éduqués, et que les forces militaires traditionnelles rejettent les réformes à la Franca. On fait aussi appel à des ingénieurs et à des militaires européens qui doivent transmettre leurs connaissances par la pratique et l'enseignement. Dans les années 1790, il y a de véritables missions militaires européennes, en particulier françaises, dans l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, Bonaparte, en 1795, qui se trouvait acculé à ne rien faire, a postulé à la direction d'une mission militaire française à Constantinople avant que l'épisode de 13 Vendémiaire le propulse au premier rang de la scène politique. Pour la première fois, ça c'est essentiel, pour la première fois, ces militaires européens ne sont pas des renégats. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de se convertir à l'islam. Même si certains d'entre eux vont se convertir à l'islam, ce n'est plus une obligation, alors que jusque-là, l'Empire ottoman avait fait appel aux compétences européennes par l'intermédiaire des renégats. Certaines mesures vont se révéler durables, comme l'instauration d'ambassades permanentes dans les principales capitales européennes dans les dernières années 1790, ce qui va commencer à faire apparaître un corps diplomatique ottoman connaissant le français et ouvert aux nouvelles réalités. Autrement dit, les premiers ambassadeurs musulmans permanents qui arrivent en France, en Autriche et en Grande-Bretagne dans les secondes moitiés des années 1790, ils visitent un monde bouleversé par la Révolution française, qui est en guerre. Quand on lit leurs dépêches, c'est pratiquement assez comiquement des phrases dans le genre « Mais d'où tire-t-il toute cette violence ?» En particulier, quand ils parlent de la Révolution française, de Robespierre et de la Terreur, ils disent « Ces Français, ils sont naturellement violents, ils sont incapables de modération. » Enfin bon, vous imaginez tous les adjectifs que les diplomates ottomans font sur la description de la Révolution française. Il y a des questions de communication culturelle qui se passent. Par exemple, quand l'ambassadeur ottoman arrive à Paris, les Français pensent l'honorer en lui faisant une représentation de la pièce Zahir de Voltaire, pièce qui place l'amour au-delà des confrontations confessionnelles. Alors on a le rapport de l'ambassadeur, la relation de l'ambassadeur qui est envoyé quelques mois après à Constantinople. Et c'est très intéressant puisque l'ambassadeur ottoman explique que le contexte historique de la pièce de Voltaire, à l'époque où les troubles qui suivirent l'effondrement de l'État des califes abbassides faisaient naître de nouveaux États dans les régions de la Perse, de l'Arabie, de l'Afrique et plus particulièrement en Égypte et en Syrie, les rois d'Europe et spécialement le roi de France, poussés et incités par le fameux sanguinaire, cruel et féroce personnage qui se nomme le pape, s'élancèrent et attaquèrent dans les années 600 de l'Égypte, à grande force et provision, avec l'objectif d'envahir et d'arracher des mains de l'islam, qu'à Dieu ne plaise, Jérusalem, la Syrie et l'Égypte. Vous voyez que dans la relation de l'ambassadeur, le mot croisade n'est pas cité. Parce que l'historiographie musulmane ignore les croisades. Elle connaît les guerres entre les puissances musulmanes et les puissances franques, mais le mot croisade n'entrera dans le turc et dans l'arabe que dans les années 1850. Parce que c'est le moment où la conception européenne de l'histoire va faire entrer son entrée dans la culture islamique. L'auteur continue en disant que l'intrigue de la pièce a été écrite par le fameux, le maudit Voltaire, porté en enfer. Puisque déjà en 1798, on sait à Constantinople que la révolution et tout le mal qu'elle implique est la faute à Voltaire et la faute à Rousseau. Mais on ne se présente pas, on l'a dans les textes ottomans. Au Caire, on ne sait pas. On ne connaît pas Voltaire et Rousseau au Caire en 1798, mais à Constantinople, on connaît. Et voilà le commentaire que fait l'ambassadeur. Les Français prétendent être les amis de la nation musulmane. Or, il ne fait pas de doute que le jeu susdit, inventé par le modicius mentionné, à partir d'une histoire supposée s'être déroulée dans le passé, avec des expressions fendant le cœur et des mots troublants, ne peut que susciter toute l'hostilité et l'inimitié possible envers la nation musulmane et ne peut entraîner que des sentiments hostiles. Autrement dit, pour notre brave ambassadeur, ce geste de courtoisie française est en fait une démonstration d'islamophobie. Au passage quand même, et c'est ça passionnant dans ces rapports d'ambassadeur, c'est qu'il explique à son public qu'est-ce que c'est qu'une tragédie, qu'est-ce que c'est qu'une comédie. Ce qui, pour des gens lettrés, rappellerait une célèbre nouvelle de Borges sur ce sujet. Mais en tout cas, donc, il explique à son public à Constantinople ce que les Français appellent tragédie et ce que les Français appellent comédie. Mais il en veut aussi aux Français parce qu'ils l'ont complètement dupé et pendant qu'il leur faisait des gestes d'amitié, ils attaquaient l'Égypte qui était une attaque, une trahison, le renversement d'une alliance séculaire, un acte d'agression caractérisé et l'on passe... Alors, les relations de l'ambassade font aussi une description de la Révolution française. On parle, par exemple, du célèbre sanguinaire et impur cruel Robespierre, qui était un scélérat né et un oppresseur, un féroce et unique personnage. Comme quoi, la première manifestation de la Révolution française n'était pas eu de grande popularité dans le monde musulman. D'ailleurs, au passage, notons que le premier terme utilisé en arabe pour la Révolution française a été fitna. El fitna al-Firan Savouya, la fitna des Français. Alors la fitna, jusqu'à aujourd'hui, c'est le désordre qui détruit l'unité de la communauté et qui est maudit. Et pas passé. C'est pas quelque chose qui est considéré comme positif. C'est un peu plus tard qu'ils utiliseront le terme faoura au lieu de fitna pour définir la Révolution française. Mais ces ambassadeurs ottomans, en dehors de maudire Robespierre et Voltaire, sont aussi frappés par l'efficacité des administrations des États européens, leur capacité à susciter de nouvelles ressources et à les taxer, ça les intéresse beaucoup, l'ampleur du commerce intérieur et extérieur de l'Europe, la création des manufactures, et on a par exemple dans la relation de l'ambassadeur en France toute une description des machines à vapeur utilisées dans les premières filatures françaises. Autrement dit, ils ont tout vu. Ils ont vu le démarrage de la révolution industrielle en Europe. Et on trouve déjà chez ces ambassadeurs la distinction fondamentale et qui est problématique jusqu'à aujourd'hui de ceux qui pourraient être adoptés chez les Francs, les techniques d'administration et le nouveau mode de production économique, et ceux que l'on rejette, leurs mœurs et leur esprit. Il est significatif que dans les premières relations d'ambassade, on parle du pays des Francs, le Franguistan, mais que dans les suivantes, on dit pour la première fois non plus Franguistan, mais Europe, Europa. Ça montre une familiarisation entre le vieux Franguistan et la réalité nouvelle, qui est l'Europe du début du XIXe siècle. La chute de Selim III mettra fin à ce premier essai d'ambassade permanente, mais il est évident que les relations d'ambassade ont apporté des informations capitales sur les évolutions que connaissait l'Europe et pas simplement dans le domaine politique. La seconde grande innovation de la période est l'établissement des imprimeries d'État à Constantinople dans les années 1790, marquant ainsi le début de la transition entre le monde du manuscrit et celui de l'imprimé. Il y avait déjà eu une tentative sans lendemain dans les années 1720, et les non-musulmans avaient été autorisés à avoir leurs propres imprimeries. Dans les provinces arabes, les premières imprimeries permanentes dateront de la génération suivante, c'est-à-dire dans les années 1820, à l'exception des imprimeries catholiques dans la montagne libanaise, qui existe aussi depuis le début du XVIIIe siècle. Les premiers livres édités sont des manuels techniques traduits et adaptés des langues européennes et à destination de l'armée et de la production d'armement. Ils servent à la réforme militaire et à la propagation des savoirs scientifiques. Là encore, c'est la vision utilitaire qui prédomine. Le sultan Mahmoud II, qui règne de 1808 à 1839, est décidé à agir énergiquement contre les pouvoirs locaux autonomes et à réorganiser l'Empire de façon autoritaire. Nous aurons l'occasion largement de revenir sur le règne essentiel de Mahmoud II. L'épisode le plus célèbre, qui a beaucoup frappé les Européens, est le massacre des Janissaires en 1826, qui met fin à l'opposition armée aux réformes. L'événement de 1826 est capital au sens où, si la force a permis de briser l'opposition aux réformes, elle établit un pouvoir autocratique sans aucun contrepoids. À partir de 1826, les réformes autoritaires pourront être imposées d'en haut, la résistance de la société ayant été brisée dans le massacre des Janissaires. Donc, on va avoir le fait que la modernité est associée à l'autoritarisme et à la violence. Reste la question wahhabite dont on a parlé. Les Saouds ont composé un embryon d'État, lancé des raids en Irak, fait la conquête des villes saintes du Hedjaz en 1806, et le pouvoir ottoman accaparé par les réformes, enfin les problèmes européens, ne peut rien faire dans les provinces arabes. Et donc on doit se résoudre à donner au vice-roi d'Égypte qui s'est imposé par la force, Mehmet Ali ou Mahmoud Ali, ça s'écrit de la même façon en turc et en arabe. Donc si vous dites Mehmet Ali, vous l'êtes à la turque, et Mahmoud Ali à l'arabe. D'intervenir. Mahmoud Ali envoie son fils Tusun en Arabie avec une armée qui réussit à reprendre les villes saintes de Médine et de la Mecque, permettant ainsi la restauration de la légitimité califale. En 1816, Tusun meurt et de peste, c'était fréquent dans la région. Et il est remplacé par le fils aîné de Mehmet Ali, Ibrahim, qui va se révéler un brillantissime général, un des grands généraux du XIXe siècle. Ibrahim, en 1818, fait la conquête de l'Arabie centrale et détruit le premier État wahhabite ou saoudien, comme vous préférez. Mahmoud II va lui accorder en récompense le gouvernement de l'Arabie et le titre de pacha. Donc, à partir de ce moment-là, entre nous, nous l'appellerons Ibrahim Pacha. Donc là, vous avez un des célèbres portraits de Mehmet Ali. En Égypte, Mehmet Ali semble avoir réussi ce que les réformateurs ottomans n'ont pas pu faire, la constitution d'une armée moderne. La transition s'est faite paradoxalement par des moyens archaïques qui étaient la constitution d'une armée servile. La conquête du Soudan à partir de 1821 a été une étape essentielle. Jusque-là, cette région avait échappé à l'ordre ottoman et le commerce des esclaves remontait par les pistes caravanières qui traversaient le Sahara jusqu'à la vallée du Nil et de la Méditerranée. Inutile de vous dire quel est le nombre de pertes humaines dans les caravanes de la piste des 40 jours, comme on disait, d'Arb el-Arbrin, était colossal. Le nombre d'esclaves qui mouraient dans la piste des 40 jours, c'est bien pire que la traite atlantique à titre de pertes. Les Égyptiens fondent Khartoum à partir de 1821 et établissent leur domination sur une bonne partie de la région. En conséquence de l'arrivée des Égyptiens au Soudan, de la conquête de Khartoum, vous allez avoir une remontée rapide de la traite islamique. Alors que, je vous le rappelle, c'est un point fondamental de l'histoire que vous savez tous, qu'en 1807, les Britanniques ont interdit la traite dans l'Empire britannique et que le congrès de Vienne de 1815 a généralisé l'interdiction de la traite dans le monde. C'est d'ailleurs très intéressant, le congrès de Vienne, par la décision de l'interdiction de la traite des esclaves, a pris la première décision d'ordre mondial faite par une convention européenne. Au moment où la traite atlantique est théoriquement interdite et les Anglais sont en train de se doter des moyens de supprimer progressivement, dans les faits, la traite atlantique, la traite islamique, elle, entre en pleine résurgence à cause de la pénétration égyptienne au Soudan. Les chasseurs d'esclaves lancent de véritables colonnes armées profondément à l'intérieur de l'Afrique. C'est d'ailleurs un des paradoxes historiques. La traite atlantique était fondée sur la traite africaine. Vous savez, il y a trois traites. Il y a la traite africaine, la traite atlantique et la traite islamique. La traite atlantique est liée directement à la traite africaine, c'est-à-dire que les Européens n'ont pas fait de capture d'esclaves. Ce sont des Africains qui font des captures d'esclaves et qui les vendent aux Européens sur les comptoirs de l'Atlantique. En revanche, dans la traite islamique, les trafiquants vont chasser les esclaves au fond de l'Afrique pour les rapporter dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traite africaine du côté islamique. Et pour l'Égypte, de Mehmet Ali, c'est un monopole de l'État, la traite des esclaves. Il faut dire que dans le monde musulman, au début du XIXe siècle, l'esclavage est encore une institution sociale vivante dans le monde ottoman, ce qui fascine d'ailleurs les voyageurs européens. Regardez le grand passage de Nerval dans le Voyage en Orient consacré aux esclaves, on voit toute la fascination que l'esclavage asiatique exerçait sur les Européens. Il y avait toujours un système mamelouk d'élevage d'esclaves blancs à destination du service de l'État, deux caucasiennes pour les harems et un nombre croissant d'esclaves noirs qui fournissent des soldats, des travailleurs, de la domesticité et des concubines, mais aussi des eunuques. Mais contrairement à l'esclavage atlantique, c'est plutôt une situation transitoire. ceux qui sont au service de l'État obtiennent leur affranchissement en récompense de leur comportement. C'est l'essence du système Mamelouk. Les enfants des concubines sont tous considérés comme blancs. Et la loi islamique et les mœurs sociales encouragent les affranchissements, les affranchis, surtout domestiques, restant sous la tutelle paternaliste de l'ancien maître. Autrement dit, et ça c'est un fait fondamental qui différencie l'esclavage islamique de l'esclavage atlantique, si probablement l'esclavage islamique, au moins dans son origine, est plus violent encore que la traite atlantique, l'esclavage islamique n'est pas héréditaire. En fait, à chaque génération, les esclaves sont libérés. Et vous n'aurez donc jamais dans les pays musulmans cette constitution d'une population servile quasi héréditaire, bien que la couleur de la peau reste un important marqueur social. Alors, il faut évidemment raffiner dans les détails. Dans les zones de transition comme la Mauritanie, on peut considérer qu'il y a de l'esclavage héréditaire. Mais globalement, il n'y a pas d'hérédité dans l'esclavage islamique, contrairement à l'esclavage atlantique. Donc, la première armée de Mehmet Ali est composée d'esclaves soudanais, encadrés par des mamelouks. Mohamed Ali utilise aussi des officiers européens, surtout français, puisqu'à partir de 1815, toute la Moyen-Orient, enfin tout l'Orient, est grouille de demi-soldes, c'est-à-dire des officiers napoléoniens mis en congé par la chute de l'Empire napoléonien, et ses aventuriers se retrouvent dans l'Empire ottoman, en Grèce et en Perse. On trouve des demi-soldes napoléoniens. Et évidemment, un, ils coûtent pas cher, puisqu'ils sont là. Et deux, ils savent se battre, puisqu'ils ont fait les campagnes napoléoniennes. Donc, ils sont très attractifs sur le marché du mercenaire. Le plus célèbre des officiers français au service de Mehmet Ali, c'est le colonel Sève, S-E-V-E, colonel entre guillemets parce qu'il a dû sérieusement gonfler ses titres napoléoniens, mais en tout cas qui va devenir, en se convertissant à l'islam, le chef d'état-major de l'armée égyptienne sous le nom de Soliman Pacha. Donc, au XIXe siècle, on voit encore nettement la distinction. Des conseillers militaires européens, vous en avez un paquet. Mais ceux qui reçoivent des fonctions de commandement doivent se convertir à l'islam. C'est la distinction qui est faite, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, entre les conseillers et ceux qui commandent. Donc, on voit par cette présence de l'esclavage et des conseillers européens combien on est encore dans la logique des maisons, des beytes, de Huzold, comme on dirait en anglais, et Hané en turc, du siècle précédent. Mais là encore, et ça c'est la distinction par rapport à l'époque précédente, dans le système mamelouk du XVIIIe siècle, c'était des maisons qui s'opposaient les unes aux autres. Vous voyez, des équipes, des écuries en quelque sorte. Dans l'Égypte de Mehmet Ali, il n'y a qu'une seule maison, celle du vice-roi. Il a le monopole. Alors, on a aussi d'autres facteurs intéressants, comme l'importance que prend le commerce de l'ivoire via le Soudan, qui est lié à la montée des classes moyennes en Europe, puisque les principaux débouchés de l'ivoire africain sont les touches de piano et les boules de billard. Et donc, comme tout ménage bourgeois a son piano, la demande d'ivoire est absolument colossale et ce sont les trafiquants africains qui vont chercher l'ivoire en tuant les éléphants. C'est bien connu. Il faut ajouter dans ce commerce africain via le Soudan l'importance des plumes d'autruche qui sont nécessaires pour les coiffures des dames de l'Europe de la révolution industrielle. Donc, on voit comment, dans cette première moitié du XIXe siècle, la mondialisation des échanges qui est en cours et qui est créée par la demande de produits exotiques par l'économie européenne impulse la pénétration de l'Afrique, qui est une pénétration islamique avant 1850, via le Soudan. Mais c'est bien l'Europe qui impulse, parce que c'est l'Europe qui demande des produits africains. Alors, par la fréquentation des voyageurs européens, le vice-roi d'Égypte a pris conscience de l'importance du mot d'ordre de civilisation. Et il l'adopte dans son action de propagande à destination des Européens. D'autant plus que l'entourage de vice-roi compose un paquet de conseillers français, auxquels va se rajouter au début des années 1830 toute l'arrivée du staff des Saint-Simoniens, qui vont se mettre au service du vice-roi d'Égypte. Donc, tous ces Français passent leur temps à expliquer à Mehmet Ali qu'il est le successeur de Bonaparte. Celui n'en croit pas un mot, même s'ils sont nés la même année. Mais en revanche, le Mehmet Ali va mener une action de relations publiques, de propagande à destination de l'opinion publique française, en se présentant comme le successeur de Bonaparte. C'est-à-dire que nous avons là la première action coordonnée de relations publiques d'un État musulman à destination de l'opinion publique occidentale. Alors, ça marche magnifiquement en France, puisqu'on est en pleine légende napoléonienne. Évidemment, ça ne peut que déplaire de façon supplémentaire aux Anglais. Mais bon, on ne peut pas contenter tout le monde. Sinon, au départ, Mehmet Ali se comporte en traditionnel bâtisseur d'empire en terre d'islam, multipliant les monopoles économiques pour financer ses multiples entreprises et en gouvernant ses domaines par le biais de la maison, de la Beit, dont il a maintenant le monopole. Cette Beit est finalement composée majoritairement de Turcs ottomans, mais on trouve aussi des Arméniens, chrétiens, et des Européens, voire même dans certains cas quelques Égyptiens, mais ce n'est pas encore beaucoup le cas. Il n'y a pas beaucoup de fellahs dans la Beit. Peu lettré, le vice-roi s'initie à la grande politique européenne en recevant constamment les consuls et les voyageurs francs. C'était le must de l'époque. Quand vous faisiez votre voyage en Égypte, vous étiez reçu par le vice-roi et vous aviez une, deux ou trois heures de discussion avec lui. En plus de cette culture orale qui lui permet de s'informer sur l'Europe et le reste du monde, quand le vice-roi entend parler de quelque chose, il demande des notes. Si un Européen lui a parlé de Machiavel, bon, il fait traduire Machiavel en arabe, et on lui lit ça parce qu'il ne le lisait pas. Il a dit au bout de ce troisième chapitre, parce que c'est nul, j'en ai fait bien pire. Ah, parce qu'il avait surtout un aspect pragmatique, ce vice-roi d'Égypte. En tout cas, cette visite au vice-roi impressionnait terriblement les voyageurs européens qui se pressaient d'écrire un livre avec comme pièce de résistance l'entretien avec le maître de l'Égypte. Mais il faut bien comprendre que ce nouveau régime qui s'installe en Égypte exerce une lourde ponction sur une économie en pleine transformation en même temps qu'il y a un épuisant service militaire. Et surtout, l'Égypte de Mehmet Ali est en train de connaître la révolution la plus fondamentale de toute l'histoire de l'Égypte. Depuis l'époque des pharaons, L'irrigation égyptienne est une irrigation par casier lors de la crue du Nil. C'est-à-dire que la vallée du Nil est ouverte et divisée en casiers, et quand l'eau monte, on ouvre le casier, on inonde le casier, puis on inonde le suivant, etc., etc. Et de toute façon, c'est une irrigation qui est liée directement à la crue. À l'époque de Mehmet Ali, première révolution agricole absolument essentielle, un ingénieur français au service de Mehmet Ali, un certain Jumel, J-U-M-E-L, met au point une variété de coton à longue fibre qui est exactement le coton recherché par l'industrie textile européenne. Et à partir de ce moment-là, l'Égypte entame sa révolution agricole qui va progressivement orienter l'économie, l'agriculture égyptienne vers la production intensive de coton, liée évidemment à la révolution industrielle européenne. Mais d'autre part, on commence dans le delta du Nil et puis ensuite dans le reste de la vallée, mais c'est une évolution qui va prendre tout un siècle, mais qui démarre sous Mehmet Ali, qui est le passage de l'irrigation annuelle à l'irrigation pérenne par réservoir et barrage, qui va être donc l'œuvre des grands vice-rois d'Égypte du XIXe siècle. Au passage, ça va expliquer un problème, c'est que les égyptologues vont arriver dans une Égypte en pleine révolution agricole. Ils vont prendre ça pour l'Égypte millénaire. Et donc, ils vont imaginer une Égypte ancienne, centralisée, où le pharaon commandait les travaux hydrauliques, etc., qui est une pure projection de l'Égypte de Mehmet Ali, et qui ne correspondent pas du tout à l'histoire pluriséculaire ou plurimillénaire de l'Égypte. Ne dites pas ça à M. Grimald, sinon je vais me fâcher avec lui. Inutile de dire que cette révolution agricole, donc, à l'heure de revenir, va presque doubler le nombre de journées de travail du fellah. En gros, on a calculé qu'on serait passé de 180 à 280 jours de travail par an sous Mehmet Ali, ce qui donne l'ampleur de la ponction exercée par le régime du vice-roi. Et évidemment, les Égyptiens résistent et la résistance est brisée par la terreur de Mehmet Ali. Et c'est dans ce contexte qu'a éclaté la révolte grecque en 1821. La révolte grecque est née de la volonté de Mahmoud II de mettre fin à l'autonomie des grands pachas des Balkans, en particulier le pacha d'Épire, le pire des pachas, Ali Pacha de Tepedelène. Je vous renvoie au comte de Monte Cristo, qu'il faut avoir lu quand même une fois dans sa vie. Ce qui était donc à l'origine un conflit entre pouvoirs locaux et pouvoir central devient un soulèvement de chrétiens orthodoxes contre les musulmans, marqué dès l'origine par des massacres de population commis par les deux camps. Dès le départ, la révolte grecque nage dans l'atrocité. Alors on a évidemment les grandes images célèbres en Europe comme les massacres de Kyo avec cette peinture de la croix, mais il faut bien voir qu'en fait toutes les populations souffrent de massacres dans cette révolte. Les représailles ottomanes sont impitoyables. Le patriarche orthodoxe de Constantinople est pendu et il y a des véritables pogroms anti-grecs dans la capitale ottomane. Comme chaque fois qu'un empire entre en voie de désintégration, il y a contradiction entre la volonté de constituer un État national homogène sur une fraction de son territoire et le fait que la population concernée se trouve dispersée sur l'ensemble des territoires de l'Empire. Et c'est là le problème. Si les populations existaient dans des cases déjà prédéterminées, les indépendances ne poseraient aucun problème. Mais les populations étant dispersées et coexistant dans les mêmes espaces, l'effondrement d'un empire s'accompagne du plus terrible des phénomènes, le nettoyage ethnique. Nous avons vu ça dans les cadres de la décolonisation des empires européens, mais c'est aussi le cas pour la décolonisation des autres empires. De ce fait, comme le nettoyage ethnique est en même temps un nettoyage religieux, les violences sont particulièrement sensibles. Mais surtout, 1821 marque un autre phénomène dans l'histoire, c'est la constitution d'un puissant mouvement de solidarité dans les opinions publiques européennes, mené par les intellectuels et les artistes. C'est ce qu'on appelle le philhellénisme. Le philhellénisme, c'est pour la première fois dans l'histoire des intellectuels qui, au nom d'une cause juste de salut des peuples, appellent à une intervention militaire des pays occidentaux. Jusqu'à aujourd'hui, ce sera une tradition, voire les affaires syriennes contemporaines. Et ça, ça naît en 1821, avec le mode de propagande de l'époque, c'est-à-dire de la Croix, le massacre de Kyo, Victor Hugo, l'enfant grec qui veut de la poudre et des balles, et ainsi de suite. Dans le monde restauré du Congrès de Vienne, le principe de légitimité des pouvoirs en place est devenu la règle. Soutenir la révolte grecque, c'est accepter l'application du dangereux principe des nationalités, même si on lui donne un caractère chrétien. C'est ce qu'écrit le grand chancelier d'Autriche, le prince de Metternich. Quelle que soit la différence entre ces causes anciennes et permanentes et celles des révolutions que la Grande Alliance a été appelée à combattre dans le cours salutaire de son existence, n'en a pas moins puisé son origine directe dans les menées de la faction désorganisatrice qui menace tous les trônes et toutes les institutions. Autrement dit, pour Metternich, l'insurrection des Grecs se trouve hors de la civilisation. Que cela se passe là-bas ou à Saint-Domingue, c'est la même chose. Saint-Domingue, la révolte des esclaves sous la Révolution française. C'est-à-dire donc pour les légitimistes européens, l'Empire ottoman, quoique musulman, est légitime. Accepter les demandes de l'opinion publique de soutenir la cause grecque, c'est accepter le principe des nationalités contre le principe de légitimité, c'est-à-dire remettre en cause l'ordre de la Sainte Alliance fondé par le Congrès de Vienne de 1814-1815. En 1824, Mahmoud II est contraint de faire appel aux forces d'Ibrahim Pacha. Ce dernier s'empare d'abord de la Crète, puis débarque en Morée, donc au Péloponnèse, où il réduit progressivement la résistance chrétienne. Les troupes d'Ibrahim Pacha sont encore composées majoritairement d'esclaves noirs. En 1827, une flotte franco-britannique venue observer la situation détruit presque Mégarde par accident, pratiquement, la flotte égypto-ottomane à Navarra. L'année suivante, la France envoie un corps expéditionnaire en Morée pour séparer les combattants et assurer l'évacuation des troupes d'Ibrahim Pacha. Beaucoup de soldats noirs sont morts dans cette guerre, ne supportant pas le climat et les privations. Mehmet Ali réorganise alors son système militaire. L'usage des esclaves noirs sera réservé au Soudan et à l'Arabie. Et on se tourne pour composer l'armée égyptienne vers les paysans égyptiens, les Fallahs, ce qui constitue une rupture majeure dans l'histoire égyptienne, puisque de façon séculaire et par tradition, les sujets ne peuvent pas être armés. Or, si on fait la conscription, on arme les sujets. Donc, au début des années 1830, l'armée d'Ibrahim Pacha est maintenant composée de fallahs qui peuvent accéder aux fonctions de sous-officiers. Les cadres sont ottomans et mamelouks, rattachés à la maison du vice-roi. Les fallahs parlent l'arabe, les seconds le turc ottoman. La discipline et l'entraînement à l'européenne sont devenus la règle. Les résistances au recrutement sont considérables et on retrouve le fameux phénomène traditionnel de l'histoire égyptienne, ce qu'on appelle l'anachorèse, c'est-à-dire les paysans qui fuient les campagnes pour échapper aux taxes, aux impôts, à l'impôt du sang, etc. À cette fin du premier tiers du XIXe siècle, on est encore dans une situation d'équilibre dans l'équipement militaire entre terre d'islam et Europe industrielle. L'Égypte peut encore se doter d'une industrie d'État d'armement capable de fournir des armes à peu près équivalentes à celles dont disposent les principales armées européennes. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce ne sera plus possible. Le progrès de la technologie militaire européenne rendra hors de portée les canons, les fusils automatiques, etc., les Winchester et autres qui vont apparaître dans les années 1870-1880, sans parler des mitrailleuses Maxim, etc., qui vont arriver à la fin du XIXe siècle. L'économie égyptienne est devenue maintenant une économie de guerre. L'armée permanente va s'élever à plus de 100 000 soldats pour une population de l'ordre de 5 millions d'habitants et une bonne partie de l'économie urbaine est consacrée à l'équipement des troupes. De même, les premières écoles modernes servent à former les cadres de cette armée et le système sanitaire qui l'accompagne. En 1829, une nouvelle guerre avec la Russie a forcé Mahmoud II à céder et reconnaître l'indépendance de la Grèce, d'une petite Grèce. La guerre d'indépendance de la Grèce n'a pu s'achever que grâce à une intervention européenne largement suscitée par un puissant mouvement d'opinion. Ce qui était au départ un soulèvement chrétien prend progressivement un caractère ethnique et national en adoptant largement pour satisfaire les Européens un discours de continuité avec la Grèce antique. Cette invention de la Grèce introduit une rupture entre les orthodoxes grecs et les autres orthodoxes des Balkans, comme les Serbes et les Bulgares. On entre ainsi dans la logique de la balkanisation, où les nettoyages ethniques opposent d'abord chrétiens et musulmans, puis chrétiens contre chrétiens. L'orthodoxie balkanique se divise en nationalités concurrentes, se revendiquant d'un passé prestigieux et de grands royaumes médiévaux. Le territoire revendiqué se fait moins au nom des populations qui les habitent que de droits historiques. À fur et à mesure que la population locale accède à l'éducation moderne, elle est sommée de se définir comme appartenant à telle ou telle nationalité, ce qui peut devenir une question de vie ou de mort. La révolte grecque, mouvement religieux ou à plus mourant parler confessionnel, a pu triompher parce qu'on lui a reconnu le caractère de nationalité, ce qui a conduit à la première application du principe du même nom, au détriment du principe de légitimité. Et voilà, on va s'arrêter là parce que la question qu'on va se poser, vous avez déjà la réponse. Si le principe de nationalité s'applique aux chrétiens des Balkans, peut-il s'appliquer aux musulmans? Et c'est ce qu'on va trancher dans le sens négatif, la conquête de l'Algérie par les Français à partir de 1830. Mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Vous avez donc mes meilleurs voeux, comme il se doit.